fall into big savings, all in the Kroger app.
Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Chapitre 8 de La Fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Adultère, inceste et bigamie. Certes, on ne trouverait pas beaucoup de jeunes dames capables de faire, un quart d'heure après leur accouchement, un récit de cette étendue et de cet intérêt. Ceci est une courte réflexion de l'auteur. C'était, poursuivit la bru de la condamnée, car elle avait droit à ce titre depuis son mariage avec le docteur Fandango, c'était un papier très fin couvert d'écriture. Bien que je n'eusse point de chandelle, mes yeux habitués à l'obscurité déchiffrèrent la signature de Boulet Rouge. La vue de mes jeunes appas avait adouci cette abrupte nature. Il me marquait que, si je voulais habiter sa cabane, il consentait à étouffer la mère de ses enfants entre ses deux matelas. Quel sauvage caractère ! Je méprisais son ouverture. Coriolan seul occupait mon cœur. Où était-il ? Que faisait-il ? En quel lieu son cerf l'avait-il transporté ? Telles étaient les questions que je m'adressais dans mon délire. Combien de fois cassais-je mes noisettes avec émotion, espérant une lettre de lui ? Puisque l'impur Boulet Rouge avait bien eu l'idée de m'écrire par cette voie, Coriolan pouvait de même... Puérile chimère ! Rien ! Ma situation était pénible et monotone. Je ne voyais personne sinon le malheureux qui m'apportait chaque matin mon pain de munitions, mon eau saumâtre et mes noisettes. On l'avait choisi sourd, muet et aveugle pour m'ôter toute chance d'essayer sur lui mes moyens naturels de séduction. Les jours passèrent. La pensée d'abréger mon existence germa dans mon cerveau. Je la repoussai. J'étais mère. La nuit de mes noces, au milieu des transports de son amour, le fils de la condamnée m'avait adressé ces paroles remarquables. « Si jamais, Madame Fandango, tu te trouves dans un embarras cruel, monte au dernier étage du palais de tes pères. Emporte avec toi 7 bougies et allume-les dans les ténèbres. Je les verrai de loin et j'accourrai à ton aide. » Il avait ajouté « Moi, si j'ai besoin de toi, je lancerai dans les airs 7 petits ballons rouges. » Cela voudra dire « Viens, je t'attends sous les voûtes du bazar Bonne Nouvelle pour affaires. » Hélas, malgré sa capacité, il n'avait pas prévu que je serais enterrée vivante. Le 15e jour du 4e mois, je cessai d'être seule. Mon jeune virtuté commença à s'agiter dans mon sein. Le matin du jour suivant, je reçus une lettre du vil Boulet Rouge. Elle était ainsi conçue. « Toi qui as repoussé mes caresses, veux-tu connaître toute l'horreur de ton sort ? Compte 17 feuilles de parquet à partir de l'endroit où tu es assise. Soulève la 18e planche qui recouvre un puits profond. Descends dans le puits, tourne à gauche, prends la 11e galerie à droite, monte 13 marches, fais le tour de la colonne et cherche un bouton de métal. Pèse dessus de droite à gauche. La colonne s'ouvrira et tu verras ta destinée. » Signé « Celui dont tu as enflammé les caprices. » J'attendis le soir, et poussé par une curiosité maladive, je comptai les 17 planches, je soulevai la 18e. Le puits profond se présenta à mes yeux. J'y descendis et suivis dès lors de point en point l'itinéraire tracé par cet odieux libertin de Boulet Rouge. Quand la colonne s'ouvrit, j'aperçus un spectacle fait pour m'étonner. Un immense corridor souterrain était devant mes yeux. Une lampe sépulcrale l'éclairait de lueurs fugitives et montrait à perte de vue son sol carrelé de noir et de blanc comme un tombeau. À côté de la galerie était un écriteau qui portait ces mots caractéristiques. « Victimes appartenant à la maison de rue de Lame Carthagène ». Au-dessous et à droite, un second écriteau disait « Côté des hommes ». À gauche, un troisième, côté des dames. Il y avait à droite 30 cellules creusées dans le roc, à gauche 30. En tout, cela faisait 60 cellules. Dans les 15 premières de chaque côté se trouvaient 30 cercueils. Sur les 30 autres, il y en avait 29 qui étaient habités par des créatures vivantes dont les noms étaient tracés sur les portes. Mon nom était sur la 30e. J'eus le courage d'ouvrir tour à tour ces 29 portes pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'y trouvai uniformément, auprès des reclus de l'un et l'autre sexe, un pain de munitions, une cruche d'eau saumâtre et des noisettes. Seulement, on y ajoutait un casse-noix quand le captif était d'un grand âge. Et savez-vous quels étaient les habitants de ces niches ? Les fils, les filles, les gendres et les brus de mon bisaïeul, mon père, ma mère que je croyais décédée, mon grand-père, ma grand-mère dont j'avais pleuré le trépas, l'oncle de Mandina, la tante de Mustapha. Ils étaient enchaînés étroitement. Aucun d'eux ne me reconnut. À l'aide d'une préparation chimique, on leur avait enlevé la mémoire. Comme je revenais sur mes pas, car j'en avais assez, une voix moqueuse autant que barbare sortit des profondeurs du souterrain. Elle me dit « Eh bien, Elvire de Rudelame, refuses-tu encore la position modeste mais honorable de ma compagne assassinée ?» Cette voix appartenait à Boulet Rouge. J'y répondis par le silence de l'horreur. Le penultième jour du 9e mois, qui était avant-hier, ma tombe s'éclaira tout à coup. À sa tête de hibou, je reconnus mon bisaïeul. Il était accompagné de 3 médecins habiles qui m'examinèrent avec attention. « Cette jeune personne, dit le premier, est dépourvue de toute infirmité. Elle accouchera sous 48 heures. » Les autres prononcèrent des paroles scientifiques et l'un d'eux fit remarquer que mes attraits avaient résisté au pain de munitions et au reste. « Ah ! M'écriai-je, ces appâts sont mon malheur ! Au nom du ciel, donnez-moi des nouvelles de mon époux !» Mon bisaïeul me jeta un regard perçant. « Qu'on achète une quantité suffisante d'alcool, commanda-t-il, et qu'on prépare un bocal afin d'y mettre, aussitôt après sa naissance, le petit-fils de la condamnée. » Il sortit par la brèche qui avait été pratiquée pour son entrée. D'après un ordre émané de lui, je fus placé sur un brancard et porté au plus haut étage de la maison, afin d'avoir de l'air pendant mes couches. Vous l'avez deviné, quand l'obscurité eut remplacé la lumière du soleil, j'allumai 7 bougies que je plaçai derrière mes carreaux. La nuit m'empêcha de voir si les 7 ballons voltigeaient dans l'atmosphère, mais, vers minuit, plusieurs chanteurs tyroliens s'arrêtèrent devant l'autel. Mon cœur battit, j'avais reconnu Coriolan parmi eux. Avec une fronde, il lança un caillou jusqu'à ma retraite. Le caillou était enveloppé d'un papier blanc sur lequel étaient écrits ces seuls mots. « Approchez-le d'un feu ardent. » J'obéis, et aussitôt d'autres caractères apparurent, formant un billet ainsi conçu. L'encre sympathique est connue depuis longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais la prudence m'a commandé d'en faire usage. Pendant ces 9 mois, j'ai été fort occupé. Au moment où l'incendie s'allumera, tiens-toi prête à jeter l'échelle de soie. Je monterai te chercher avec Mustapha et le gendarme. Tu nous reconnaîtras à ces divers signes. Le gendarme aura une pomme d'amour à la place du cœur, Mustapha un réséda à sa casquette, et moi, le ruban des saints Maurice et Lazare. Nous murmurerons tous les 3 en arrivant, Paris. Tu répondras à voix basse, Palmyre. Coriolan, le fils de la condamnée. Je baisai ce papier avec ardeur, mais il me jeta dans une perplexité insurmontable. De quel incendie parlait mon époux? Et s'il mettait le feu au palais, que deviendraient les 29 victimes du souterrain? Un adolescent nommé Gringalet, qui est le fruit d'une faute commise par l'huissier de notre famille, descendit du toit et frappa 3 coups à mes carreaux. J'ouvris ma fenêtre. Gringalet n'eut que le temps de prononcer précipitamment ces paroles. « Avalez les papiers, les voilà !» En effet, j'avais encore le billet dans ma gorge quand mon bisaïeul entra avec l'huissier de la place des Vosges, porteur d'une liasse de parchemin considérable. Derrière eux venaient les 3 pieuvres mâles de l'impasse Guéméné. Derrière encore, de nombreux domestiques avec des tables, des tapis, des sièges, une escabelle, tout ce qu'il faut enfin pour meubler une chambre destinée à servir de tribunal de famille. Monsieur le duc prit place, sur une sorte de trône, les trois pieuvres mâles l'entourèrent. L'huissier de la place des Vosges s'installa à la petite table du greffier, et moi, je dus m'asseoir sur la sellette. Les valets furent congédiés. « Messa, Sali, Lina, dit mon bisaïeul, vous êtes les témoins et l'auditoire. Cette coupable enfant est l'accusée. Mon huissier est le greffier, je suis le juge. Nous constituons une cour de haute et basse justice. J'en ai le droit par les chartes des anciens rois de France. » L'huissier frappa sur ses parchemins. C'était vrai. Au dehors, Gringalet, par des menaces et des pieds de nez, témoignait du mépris que lui inspirait son père naturel. « Fille ingrate et perverse, savez-vous dans quel abîme de forfait vous vous êtes plongée ?» demanda mon bisaïeul. « Je sais que je suis innocente, » répliquai-je avec l'assurance de la candeur. « Innocente !» répéta-t-il. « Vous allez en juger vous-même. » Mon grand-père, le premier duc de Rudelame, avait un fils adultérin qui se nommait Inaniquet. Ce fils adultérin étant devenu pubère, séduisit la duchesse ma mère. Je suis née de cet inceste. N'êtes-vous pas la fille de mon petit-fils ? Si bien, répondis-je, pour mon malheur. Parfait. Ce Inaniquet est marié à une princesse arabe qui vit en Lombardie. On le connaît dans Paris sous le nom du docteur Fandango. « Au ciel ! » m'écriai-je. « Vous êtes, par conséquent, la femme du père incestueux, adultérin et bigame de votre bisaïeul. Je crois qu'un pareil fait ne s'est jamais produit dans les œuvres d'imagination. Mais, objectai-je, l'âge de mon Coriolan, il doit sa jeunesse apparente au prodige de la chimie, interrompit le duc. Vous sentez bien que vous ne pouvez rester dans un pareil état. Doutez-vous encore ? « Huissier de la place des Vosges, montrez-lui les papiers qui le prouvent. » C'était exact. On me prodigua les preuves authentiques de ma honte. Mon bisaïeul poursuivit. « Heureusement, votre mariage est nul comme ayant été cimenté par une moitié d'ecclésiastiques. Le prêtre d'Éthiopie n'a qu'une jambe, qu'un bras et qu'un œil. Voici un homme du peuple. » Il montrait l'odieux boulet rouge, qui consent à donner son nom à votre enfant. Trop pur pour encourir le reproche de bigamie, il s'engage à noyer sa femme instantanément. « Avec plaisir, » dit Messa. « Et si vous refusez, » acheva mon juge, « on va faire sur vous l'essai d'un supplice nouveau, consistant à peler la personne comme une pomme et à saupoudrer sa chair de poivre rouge. » À cet instant précis, des clameurs confuses s'élevèrent au dehors et les serviteurs épouvantés revinrent, disant « « Fuyez, monseigneur, le palais est en flammes !» Fin du chapitre 8, enregistré par Ezoie, en Belgique, en avril 2011. Chapitre 9 de La fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le grand chef des Ancas. La belle Elvire s'arrêta, suffoquée. On se souvient de cette particularité qui était alors un mystère. Mandina avait vu le ciel rouge dans la direction de l'Occident. Ce n'était pas le château de Mauruse qui était la proie du feu, c'était le palais du faubourg Saint-Honoré. « Hélas !» reprit la narratrice, « je n'étais pas encore sauvée. Cet incendie, allumé par les soins de mon époux, se produisit dans un moment incommode. Entourée comme je l'étais, comment jeter l'échelle de soie qui devait conduire jusqu'à moi mes libérateurs? Je fus enlevée par les trois pieuvres mâles de l'impasse Guéménée qui me firent sortir du palais par des escaliers dérobés et des couloirs obscurs. Ces souterrains aboutissent au puits de Grenelle. On m'emmena ensuite à travers les rues. Messa, Sali et Lina nous quittèrent pour affaire. Je ne sais ce que devint l'huissier de la place des Vosges. Rue de Sévigné, je fus prise des douleurs de l'enfantement, et vous savez le reste. Plaignez mes infortunes. Nous renonçons à peindre la physionomie générale de l'atelier des piqueuses de bottines réunies à la fin de ce récit aussi long que surprenant. Nous préférons revenir en toute hâte à la chambre voisine où le sanguinaire boulet rouge se préparait à immoler le nouveau-né. Messa, Sali et Lina, ignorait la série des circonstances qui avaient amené Elvire et son fils Virtuté à la maison du repris de justice. Il ne savait même pas que la malheureuse jeune femme fût accouchée. En quittant Monsieur le Duc, ils étaient allés tuer quelques malades du docteur Fandango pour accomplir le traité qui les obligeait à fournir tous les jours 73 victimes. Ce chiffre n'avait pour eux rien d'exagéré. L'habitude est une seconde nature. S'ils avaient pu deviner qu'ils étaient là en présence de Virtuté, le petit-fils de la condamnée, destiné, dès son entrée dans la vie, à périr dans de l'esprit de vin, ils n'auraient pas hésité. Mais ils le prenaient pour un enfant du commun, fruit insignifiant d'une piqueuse de bottines et d'un prolétaire. Ils ne se pressaient point, d'autant que la frêle créature ne portait pas encore la marque particulière du docteur Fandango. Boulet Rouge était indécis sur la manière dont il allait l'immoler. Il avait le choix entre le poignard, le poison ou la strangulation. Il pouvait aussi lui appliquer un masque de poids sur le visage ou lui chatouiller la plante des pieds jusqu'à extinction. Il préféra lui enfoncer une aiguille anglaise dans la tempe parce que cela ne laisse pas de traces. Pendant qu'il prépare, en se jouant, l'exécution de ce forfait, nous passerons de l'autre côté de la rue de Sévigné et nous introduirons le lecteur dans la retraite modeste du célèbre Silvio Pellico. Ce respectable vieillard avait été ressuscité par le docteur Fandango au moyen d'un procédé occulte. Il avait compris que les détails de sa mort et de sa captivité compromettaient son honorabilité dans sa patrie, et il était venu s'établir à Paris. Sa succession ayant été recueillie par ses héritiers, il vivait des bienfaits du généreux Mustapha, qu'il avait adopté pour aïeul. Sa demeure servait souvent de lieu de réunion aux loyales natures qui défendaient la cause du fils de la condamnée. Ce soir, nous n'avons pu l'oublier, c'était chez lui que Mandina de Hachecor, le rémouleur, le joueur d'orgue et le cocher de citadine avaient cherché un asile après l'explosion de la machine infernale. Ils y trouvèrent le gendarme et quelques autres bons cœurs, réunis autour d'Olinda, la jeune grecque, ancienne première confidente d'Elvire. Elle était en mal d'enfant, parce que, mariée à la même heure que sa maîtresse, elle devait accoucher à la même époque. Telles sont les lois imperceptibles de la science. Une scène attendrissante eut lieu dans cette étroite enceinte. Quand le vénérable Silvio Pellico vit que Mustapha était veuf d'une oreille, il se livra aux marques du plus violent désespoir. « Personne ne sortira d'ici avant d'avoir été fouillé avec soin !» s'écria-t-il en proie à une animation peu ordinaire. « Il faut que l'oreille de mon jeune bienfaiteur se retrouve. Et d'abord, quelque traître ne se serait-il pas glissé parmi nous ?»« Nous avons déjà échangé les signes convenus, » objecta Mandina. « Jeune insensé !» répliqua Silvio Pellico. « La vie a-t-elle été toujours sans reproche ? Le gendarme a-t-il à se louer de ta conduite ? Tu n'as pas la parole. Ignores-tu à quel point est aujourd'hui poussé l'art de déguisement ? Dans une assemblée secrète, il serait bon maintenant de varier toutes les 10 minutes les signes et les mots d'ordre. Une pieuvre mâle, un chacal, un mohican, un habit noir, une casquette verte peut prendre à chaque instant la taille et le visage de l'un de nous. Penses-tu ce qui arriverait si les fléaux des diverses impasses parvenaient à pénétrer nos secrets ? Tout en parlant, il lavait avec son mouchoir imbibé d'un précieux vulnéraire la place où était autrefois l'oreille droite du loyal Mustapha. Chacun respectait sa douleur. Il reprit. « L'homme a besoin de 2 oreilles. Une seule oreille est contraire aux lois de la symétrie. Mustapha, ou plutôt Faustin d'Apreval, car après un pareil malheur, je ne saurais plus dissimuler ton antique et illustre origine. Quelle figure vas-tu faire auprès de la princesse ton amante ?» Les assistants écoutaient, stupéfaits. Le gendarme fit un pas en avant. « Si vous êtes véritablement Faustin d'Apreval, dit-il, ma mission est accomplie. La mienne aussi !» s'écria le rémouleur qui ôta sa perruque rousse et laissa voir des cheveux châtains de la nuance la plus chatoyante. L'ecclésiastique éthiopien demanda un couteau. Ayant fendu sa soutane, il en retira un bras d'abord, puis une jambe, tous deux bien conformés, puis il enleva un appareil ingénieux qui recouvrait un de ses yeux, puis enfin, dépouillant une peau factice dans laquelle il vivait depuis longtemps, il apparut blanc et propre à tous les regards. « Amoroso !» murmura Mandina, prête à se trouver mal. Le joueur d'orgue, sans y songer, exécutait sur son instrument un des morceaux les plus émouvants de la Marseillaise. Silvio Pellico avait tout compris. Il étendit ses mains tremblantes et dit « Je puis mourir à nouveau, puisque j'ai vu réunis encore une fois les 5 enfants de l'Odalisque. » « Les 6 !» soupira Olinda, qui avait achevé dans un coin le travail de sa délivrance et qui bondit au milieu du cercle avec un bel enfant dans ses bras. Cela mit un froid. Silvio Pellico prononça les paroles suivantes à voix basse. « Si Olinda est la fille de Princessina, l'Odalisque Mograbine, elle a épousé son frère. Ce n'est pas convenable. »« Parle, ô mon époux !» s'écria la jeune grecque avec un sourire angélique. « Hâte-toi de dissiper leurs soupçons !» Le rémouleur fit un geste pour réclamer le silence. « Grâce au souverain arbitre de l'univers, dit-il, nous avons évité ce piège. La nuit des noces, et au moment même où j'entrais dans la couche nuptiale, ma sœur reconnut à mon cou le portrait du grand chef des Ancas qui me fut légué par notre mère. Elle poussa un cri et se rhabilla. « Mais l'enfant !» interrompit Silvio, non sans défiance. « Votre âge avancé ne vous donne pas le droit de me couper la parole, » répliqua le rémouleur. « J'allais expliquer l'enfant. Ma sœur s'agenouilla près de moi et m'avoua que, la veille, elle avait cédé à l'amour d'un inconnu qui devait la conduire à l'hôtel le lendemain. Comme ce lâche imposteur manquait à ses serments, Olinda... » Il fut interrompu par plusieurs coups vigoureux frappés à la porte. « Qui vive ?» demanda aussitôt Silvio Pellico. « C'est moi !» répondit une voix qui fit tressaillir la jeune grecque. « Cet organe » commença-t-elle. « Moi !» poursuivit la voix. « Frigolin de Torbois, qui, empêché il y a 9 mois par une circonstance imprévue, n'ait pu venir au rendez-vous. « C'est lui !» s'écria Olinda. « C'est le père de Zélida !» Elle pressait l'enfant contre son cœur. Silvio Pellico fit remettre les divers déguisements, car il n'oubliait jamais les conseils de la prudence, et l'on ouvrit la porte au véritable époux d'Olinda, qui reconnut son petit, séance tenante. Il portait le costume des droits réunis, mais c'était un mensonge. Ses parents étaient propriétaires et référendaires à la cour des comptes. Silvio Pellico réfléchissait. « Ôtez de nouveau vos déguisements » ordonna-t-il. Et quand on lui eut obéi, « Nous devons redoubler de précautions, parce que j'ai une importante ouverture à vous faire. » « Pour ne point blesser la pudeur, continua-t-il au bout d'un instant, messieurs, vous tournerez le dos aux dames. Mesdames, vous regarderez du côté où ne sont point les hommes. Puis vous vous déshabillerez complètement afin de me laisser constater si vous portez tous le cachet particulier du fils de la condamnée. J'ai été cruellement trompé en ma vie. Je tiens à n'être plus victime d'aucune erreur. Mon grand âge m'autorise à faire cette constatation sans offenser l'un ni l'autre sexe. » On lui obéit encore, mais en murmurant. Aussitôt qu'il eut vu et contrôlé tous les cachets, il ouvrit ses bras et dit avec une émotion qui allait jusqu'au transport « Dans mes bras, sur mon cœur, tous, tous, puisqu'il ne reste plus aucune énigme à deviner, je vais vous faire une dernière surprise, ô mes enfants. Reconnaissez l'auteur de vos jours. Je suis le grand chef des Ancas. Je suis le veuf de Princessina, l'Odalisque Mograbine. » Il est plus facile de se représenter l'effet de cette péripétie que de l'expliquer par des paroles. « Oh, mes enfants !» se reprit tout à coup le vieillard. « Que la vieillesse vous rend donc léger et abominablement inconséquent. L'état de nudité dans lequel je viens de vous mettre en est une preuve évidente. Baissez les yeux, mes filles, et ne regardez pas ainsi vos frères. Mes fils, baissez les yeux, et gardez-vous de détailler ainsi vos sœurs. Vite, reprenez vos vêtements. » Pendant qu'elles se rhabillaient, le vénérable ancêtre leur expliqua que, craignant les cancans, il s'était réfugié au Chili, que les Araucaniens l'avaient choisi pour leur roi, etc., etc. Mais nul n'est parfait. Au milieu de l'allégresse générale, ce vieillard entêté reprit son idée fixe. « Tout cela n'empêche pas, s'écria-t-il, que le généreux Mustapha n'a plus qu'une oreille. Maintenant qu'il est mon fils aîné, je tiens de plus en plus à ne pas le laisser dans cet état. » « J'ai sur moi une colle spéciale, » dit le nouvel époux d'Olinda. « J'en donnerais volontiers un morceau pour être agréable à mon beau-frère. Si on pouvait savoir où est l'oreille... » Il n'eut pas le temps d'achever. Silvio, leste pour son âge, s'était élancé vers son armoire qui s'ouvrait, bien entendu, à l'aide d'un bouton caché dans le mur. Il en retira une longue-vue sur l'enveloppe de laquelle les initiales JFGLP indiquaient qu'elle avait appartenu au malheureux navigateur Jean-François Galou de la Pérouse, commandant l'Astrolabe et la Boussole, mort en 1785 aux îles Vanikoro. L'ayant développée à son point, il se mit à la fenêtre et examina le pavé de la rue de Sévigné pour voir s'il n'y découvrirait point l'oreille de Mustapha. C'était juste au moment où Messa, Sali et Lina entraient dans la chambre au berceau chez les piqueuses de bottines réunies. Nous avons noté comme quoi Tancrède, dit Chauve-Sourire, prisonnier chez Mandina à l'étage au-dessus, banda son arc et décocha une flèche à l'adresse de Silvio Pellico. Cette flèche ayant traversé les airs, atteignit le vieillard à la tête et lui coupa net l'oreille droite. Loin de se lamenter, il poussa un grand cri de joie et revint vers sa famille en tenant son oreille à la main. « Jeune étranger, dit-il à Frigolin de Torbois, ô mon gendre, préparez votre colle et que cette oreille appartienne désormais au noble Mustapha pour prix de ses bienfaits. » Celui-ci voulut refuser, mais Silvio poursuivit. « Ma carrière est fort avancée. Peu importe que je la termine avec une seule oreille, puisque j'ai renoncé à l'amour depuis que Princessina n'est plus. Accepte cette oreille, mon fils. C'est celle d'un vieillard. Elle écoutera les conseils de la prudence. En outre, tu n'auras plus besoin désormais de faire à tout bout de champ des signes pour te faire reconnaître. Il nous suffira de relever les belles boucles de tes cheveux et de voir mon ancienne oreille pour constater ta présence à l'instant même. » Mustapha consentit enfin. Comme le nouvel époux d'Olinda achevait l'opération du collage, les regards de Mustapha se portèrent par hasard vers les fenêtres de l'atelier qui faisait face. « Avez-vous du vieux linge ? » s'écria-t-il d'une voix de tonnerre. On ne le comprit point d'abord. « Avez-vous du vieux linge ? » répéta-t-il en proie à une exaltation croissante. « Du papier, de la laine à matelas, des chiffons, n'importe quoi !» Chacun le crut fou, mais sans s'arrêter à combattre cette erreur, il déchira les rideaux du lit et s'en fit une sorte de turban fort épais. Puis, reculant de plusieurs pas pour prendre son élan, il dit d'une voix tonnante « Il faut sauver Madame Fandango ou mourir !» En même temps, il sauta par la fenêtre. La famille de Silvio Pellico, que nous appellerons maintenant grand chef des Ancas, le vit traverser l'espace. Sa tête alla frapper la fenêtre de la croisée des piqueuses de bottines et l'enfonça. C'était pour éviter le choc, inséparable d'une pareille entreprise, qu'il avait demandé du vieux linge. Fin du chapitre 9, enregistré par Ezoa, en Belgique, en avril 2011. Chapitre 10 de La Fabrique de Crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'eau qui change les physionomies. Grâce à la précaution qu'il avait prise de faire un turban épais avec les rideaux du lit, le noble Mustapha, entrant ainsi chez ses voisines à travers le châssis brisé d'une fenêtre, n'éprouva d'autre mal qu'un léger étourdissement, et même son oreille de vieillard récemment collée ne bougea pas. Pour expliquer la soudaineté désespérée de son acte, il nous est indispensable de retourner un peu en arrière. Après le récit d'Elvire de Rudelame, bru de la condamnée, la gérante avait fait le thé, beurré les tartines et mis le couvert. Pendant cela, Boulet Rouge, toujours perplexe, repassait dans sa tête les divers moyens de détruire le nouveau-né. Carapace et Arbre-à-Couche tournaient leurs pouces en causant des multiples événements de cette journée. Tout à coup, l'odeur du thé pénétra dans la chambre par les fissures de la porte. Boulet Rouge ouvrit de larges narines et dit « Je vais mettre l'enfant vivant dans le cercueil. Monsieur le duc aimera peut-être mieux l'avoir ainsi pour jouir de ses souffrances. Allons prendre une tasse de thé. »« Y penses-tu ? » s'écria Lina. « Nos visages sont connus. As-tu oublié l'eau qui change les physionomies ?» interrompit Boulet Rouge en haussant les épaules. Elle ne me quitte jamais. Approchez, je vais vous rendre méconnaissable. » Il tira de son gousset un flacon clissé et versa dans le creux de sa main quelques gouttes d'un liquide jaunâtre dont rien ne saurait dire l'odeur. Il passa cette préparation sur son visage qui prit aussitôt l'expression d'un maraîcher. Arbre-à-couche et Carapace, ayant subi une opération semblable, ressemblèrent incontinent, le premier à son concierge, le second à une poire tapée. Boulet Rouge remit son flacon clissé dans sa poche et dit « La pharmacie fait d'étranges progrès. On vend maintenant des pilules graduées et numérotées de 1 à 43. Ce n'est pas cher. Le numéro 1 tue en une seconde, le numéro 2 en deux jours, le numéro 3 en 3, le numéro 8 en une semaine, le numéro 30 en un mois, et ainsi de suite. Chaque boîte est accompagnée d'une cédule Véran qui assure le remboursement et une indemnité en cas de retard. Êtes-vous prêt ? Que faudra-t-il dire ? Il faudra dire comme moi. Marchons. » Les piqueuses de bottines réunies, et surtout la jeune accouchée, tressaillirent à la vue des trois pieuvres mâles de l'impasse Guéménée entrant ainsi dans l'atelier par une chambre qui n'avait pas d'issue. Mais l'eau qui change les physionomies avait produit un si merveilleux effet qu'Elvire ne les reconnut point. Néanmoins, à tout événement, elle couvrit son visage d'un voile très épais. Messa, Sally et Lina saluèrent poliment. « Qui êtes-vous ? » demanda la gérante avec défiance. « Des passants, » répondit Boulet Rouge d'un air aimable. « Êtes-vous venu par la fenêtre ?»« Précisément. » Et alors Boulet Rouge raconta, avec une grande affectation de bonhomie, comme ils avaient été lancés par l'explosion à 32 mètres au-dessus des toits, comme quoi ils s'étaient accrochés au balcon, etc., etc. C'était aussi vraisemblable, pour le moins, que les aventures consignées quotidiennement dans les œuvres d'imagination dont les Amanda, les Irma et les Anaïs nourrissaient leur jeune intelligence en lisant le feuilleton d'un des 100 000 exemplaires du Petit Canard. Elles trouvèrent cela tout simple, et la gérante se leva pour ouvrir aux trois inconnus la porte de l'escalier. Mais ce n'était pas le conte des trois fléaux de la capitale. Boulet Rouge reprit avec un sourire agréable. « Nous sommes trois bons bourgeois, riches et même à notre aise. Pourquoi le hasard qui nous a conduits dans ce charmant séjour n'aurait-il pas de suite ? Célibataires tous trois, nous cherchons des fiancés dans Paris. Asseyez-vous, messieurs !» interrompit la gérante. Ils prirent place à table. Boulet Rouge dissimulait avec le plus grand soin son cercueil d'enfant qui aurait pu le trahir. Et à propos d'enfant, on s'étonnera peut-être de voir Elvire s'occuper si peu du sien. Elle était mère depuis une heure à peine. Elle n'en avait pas encore l'habitude. Une gaieté franche et pleine d'abandon régnait en apparence dans l'atelier, mais, de temps en temps, Boulet Rouge échangeait, en dessous, un sanglant regard avec ses complices. Toutes ces malheureuses jeunes personnes étaient condamnées à mourir par leur imprudence. Au bout d'un quart d'heure, Boulet Rouge s'écria « Vous avez pu juger l'amabilité de nos caractères. Ne faisons pas usage de l'étiquette du faubourg Saint-Germain, où l'on est des 5 et 6 jours avant de faire connaissance. Marions-nous tout de suite. » « Hélas !» pensa Elvire sous son voile très épais. « Nous ne perdîmes pas beaucoup de temps non plus, le fils de la condamnée et moi. » Et sa tendre imagination lui rappelant tous les détails de la nuit de ses noces, elle tomba dans la rêverie. Messa, Sally et Lina étaient des scélérats sensuels et déréglés qui joignaient volontiers au meurtre la débauche la moins excusable. Ils reculèrent la grande table à ouvrage afin de faire de la place, et bientôt l'atelier des piqueuses de bottines réunies fut le théâtre d'un bal particulier, excessivement libre, où les gestes trop hardis se mêlaient aux plaisanteries du plus mauvais goût. Cette petite fête de famille devait énormément influer sur le caractère et l'avenir d'une Anaïs, d'une Irma et d'une Zuléma. Ces trois jeunes personnes se reconnurent alors un talent chorégraphique dont elles n'avaient pu jusque-là se faire une idée. Elles eurent depuis un certain succès dans les bals de mauvais aloi et triomphèrent bellement, grâce aux savantes exhibitions des dessous de leurs jupes, bien avant celle que la danse décadente de nos jours a surnommée « sauterelle » et « gris d'égout ». Dans cette cohue, vous augurez quelle devait être la gêne d'Elvire. Afin de n'être point embarrassé dans ses mouvements, Boulet Rouge déposa sous la table son cercueil d'enfant. Personne n'y faisait attention. Tout le monde était au plaisir, et la gérante, nous avons le regret de l'avouer, donnait l'exemple de l'inconvenance. Après la polka et le quadri, les Irma, les Anaïs et les Amanda demandèrent à boire. D'un coup d'œil rapide, Boulet Rouge rassembla autour de lui ses compagnons et leur glissa ces mots à l'oreille. « En avant l'élixir funeste !» Puis tout haut, il s'écria, s'adressant à ces demoiselles, « Il est une liqueur délicieuse inventée dans le silence du cloître par de saints religieux. Nous emportons avec nous quelques faibles échantillons. Le rhum est bu, mais charmante, et le thé sans alcool est un breuvage des plus fades. Permettez-nous de payer notre écho en vous offrant une goutte de carmélite bien supérieure aux liqueurs de chartreuse et de bénédictine que l'on trouve dans le commerce. » « Payez ce que vous voudrez, » répondirent les folles filles. « Le plus sera le meilleur. » Alors Lina tira de sa poche la sinistre bouteille de fer blanc, tandis que Messa et Sally atteignaient leurs petits flacons en métal d'Alger. Les malheureuses tendirent leurs tasses de thé, c'en était fait d'elles, lorsque sous la table, du sein du cercueil d'enfant, un faible cri s'éleva. « Vous ne connaissez pas le cœur des mères. Ce cri suffit pour rappeler au souvenir d'Elvire la naissance récente de son cher fils Virtuté. Elle se mit sur ses jambes tremblantes, arracha son voile et s'élança, semblable à une lionne, dans la chambre voisine où était le berceau. Son mouvement avait été rapide comme l'éclair, mais rien n'échappait à Boulet Rouge. Ce malfaiteur imita le chant de la pieuvre femelle, appelant ses petits dans les profondeurs de l'océan. Arbre-à-couche et Carapace connaissaient ce signal qui annonçait une péripétie de premier ordre. Ils ouvrirent des oreilles attentives et Boulet Rouge leur dit « Le voile épais cachait la bru de la condamnée, l'héritier combiné de l'immense fortune des rues de l'âme et des magnifiques économies du docteur Fandango est dans mon cercueil. » À ce moment, l'infortuné Elvire, trouvant le berceau vide, poussait un cri d'horrible douleur.
« Virtuté ! Virtuté !»
Mais à ce cri, de l'autre côté de la rue, dans la retraite du vénérable Silvio Pellico, un second cri répondit « Avez-vous du vieux linge ?» avait demandé le généreux Mustapha. Il avait tout vu. D'un coup d'œil et grâce à un rayon de lune, il avait reconnu la jeune Madame Fandango et dans l'atelier même, trois des plus méchants carnassiers des impasses, Messa, Sally, Lina. Nous devons spécifier ici que l'eau pour changer les physionomies n'a pas un effet très durable. Il faut renouveler souvent. Les trois fléaux, d'ailleurs, voyant que la catastrophe approchait, ne prenaient plus la peine de dissimuler leur pénible dessein. À l'instant où le noble Mustapha les apercevait, ils tiraient de leur poche, sans se gêner aucunement, des poignards, des armes à feu, quelques massues, des cordons à étrangler, des boulettes et même une certaine quantité de charbon d'ione, propre à déterminer l'asphyxie, pour le cas où tous les autres moyens leur manqueraient. Nous savons que l'éminent cocher de citadine, ayant franchi la rue de Sévigné, passa au travers des châssis de la fenêtre comme un boulet de canon, sans se faire aucun mal. Ce que nous ignorons, c'est qu'avant de pénétrer dans l'atelier, il se débarrassa de ses vieux linges. Ce que nul ne peut deviner, c'est l'effet produit par son aspect soudain et complètement inattendu sur les trois fléaux de la capitale, surpris ainsi dans l'exercice de leur coupable industrie. Ce fut l'effet de la tête de Méduse, ce fut l'effet de la statue du commandeur. Fin du chapitre 10, enregistré par Ezoa, en Belgique, en avril 2011. Chapitre 11 de La Fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La condamnée. Dès sa plus tendre enfance, Monsieur le duc de Rudelame Carthagène avait eu cette tête de hibou. À l'école, autrefois, avant la Révolution, ses jeunes camarades l'appelaient le Grand-Duc, par allusion à l'oiseau qui porte ce nom. Ses railleries du premier âge sont dangereuses. elles avaient peut-être influé sur toute la carrière de l'aïeul d'Elvire. À cet égard, néanmoins, nous n'affirmons rien. En quittant la jeune accouchée de l'allée sombre, où il n'avait pu assouvir sa cruauté, il remonta la rue de Sévigné, cherchant un homme du commun à qui il pût emprunter son costume. Il en avait besoin pour ses projets. Non loin de là, rue du Port-Royal, il aperçut un commissionnaire assis sur une borne. Il le tua aussitôt d'un coup de fusil avant et le dépouilla pour se revêtir de ses hardes. L'air était tiède et lourd. Le bisaïeul d'Elvire évita un rhume grâce à cette circonstance. Il entra dans une taverne de l'impasse du marché Sainte-Catherine où ses habits de duc lui auraient nui. Dans cette taverne se réunissaient habituellement les ennemis du docteur Fandango qui demeurait dans le quartier. Il savait y rencontrer Coloquinte, du plat d'étain, Sorribel, des arts et métiers, et même peut-être Pile de Pont, le tigre de l'impasse où se trouvait la taverne. Par le plus grand des hasards, il ne trouva que Montaroux, un débutant, simple chacal à la Villette. Il se fit connaître de lui au moyen des signes du troisième degré. « Maître, lui dit Montaroux, tous nos frères sont partis à la tombée de la nuit pour le palais de Rudelame Carthagène qui est devenu la proie des flammes. Ce soir, à minuit, vous les trouverez dans les souterrains qui s'étendent sous le fleuve. » Le duc lui donna une bourse pleine d'or et répondit « Non loin d'ici, il existe une place de fiacre. Choisis un cocher ami des libations et attire-le dans un cabaret malfamé. Fais-le boire. Quand tu l'auras plongé dans l'ivresse, cache-le sous la table après l'avoir préalablement poignardé. » Montaroux frissonna, car il n'était pas encore endurci. Le bisaïeul d'Elvire laissa échapper un geste de mépris. « Réprime ces frémissements insensés, si tu veux parvenir, » poursuivit-il. « Tu prendras les vêtements du cadavre. À l'heure où je te parle, je porte les défroques de ma dernière victime, qui probablement est encore chaude. » On en prend l'habitude au point de ne plus pouvoir s'en passer. « Te voilà tout blême, jeune homme. Si tu hésites, crains un châtiment sévère. » L'infortuné Montaroux vit le cric malais qui sortait à demi de l'une des ex-poches du défunt commissionnaire. Il tomba à genoux. « J'assassinerai le cocher, dit-il, quoiqu'ils soient tous pères de famille. »« Très bien. » Une fois couvert de ton déguisement, tu t'assoiras sur le siège du fiacre, à la place du mort, et tu iras stationner au coin de la rue de Sévigné. Connais-tu la maison du repris de justice ?
Oui, maître.
Tu ne perdras pas un seul instant de vue la porte de cette maison, et si tu en voyais sortir une jeune femme, portant dans ses bras un enfant nouveau-né, tu donnerais aussitôt le signal.
Quel signal ?
Sais-tu imiter le cri du canard ?
Oui, maître.
Imite. Montaroux imita. Monsieur le duc fut satisfait. « Tu as plus de capacité que je croyais, » dit-il. « Par trois fois, tu imiteras le cri du canard. Écoute, tu surveilleras également la maison qui fait face. Si tu y voyais entrer Mustapha ou quelque autre suppôt de Fandango, voici une chandelle romaine. Tu l'allumerais. »«
Oui, maître. » »«
Écoute encore. Chaque fois que tu verras passer un des nôtres, tu produiras le sifflement d'une couleuvre. Il s'approchera. Tu lui diras « Le maître est au café de Rohan, vis-à-vis le palais cardinal, à voir jouir une poule. » Après avoir prononcé ces paroles, le bisaïeul d'Elvire remit ses habits de duc et s'éloigna précipitamment. Est-il besoin d'expliquer que les divers événements racontés dans le premier chapitre disparurent aux yeux de Montaroux derrière l'immense voiture de vidange de la compagnie Le Sage, nouveau système diviseur et inodore? À cet égard, le meurtre du cocher fut inutile. Nous n'aurions pas pris la peine de le mentionner s'il ne devait plus tard servir au développement de notre drame. Dans un salon somptueux et nobiliaire de la rue de Grenelle-Saint-Germain, une femme d'un certain âge était demi-couchée sur un lit de repos. Un jeune homme de 28 ans, remarquable par sa beauté méditative, lui tâtait le pouls. L'une était la princesse Troïka, propriétaire des mines d'or de Tobolsk, dans l'autre,
vous eussiez reconnu le faux porteur d'eau des noces précitées, Coriolan des ruines de Palmyre, connu dans l'univers sous le nom de Docteur Fandango.
Docteur, demanda-t-elle d'une voix languissante, avez-vous deviné le mal dont je meurs?
Oui, princesse, répondit Fandango. Elle le regarda d'un air d'étonnement qui n'excluait pas le doute. Princesse, reprit le docteur, comme répondant à ce regard, vous ne pouvez vous consoler de la perte de votre enfant.
Ô ciel ! S'écria Troïka. Homme surprenant ! Lisez-vous donc au fond des cœurs ?
Mon art va jusque-là, madame.
Troïka soupira.
Vous m'inspirez un tel sentiment que pour un rien je vous raconterai ma touchante histoire.
Je suis un peu pressée. Est-elle longue, votre histoire ?
J'abrégerai. J'écoute.
La princesse prit une posture à la fois agréable et commode, puis elle débuta ainsi.
Mon père possédait la moitié des mines d'or de Tobolsk. Le père du prince Troïka possédait l'autre moitié. Nous nous rencontrâmes dans une société choisie. Il me plut. Je fus adorée par lui. Les convenances y étaient. Nous nous mariâmes. Il y a de cela 30 ans moins 6 mois.
Fandango était distrait. Il ne fit nulle attention à ce chiffre qui eût dû exciter son intérêt, car ce fut vers la même époque que le travail de génération spontanée dut commencer à préparer sa naissance. La princesse continua.
Mon mari et moi, nous avions du goût pour les voyages. Nous résolûmes d'aller passer en Asie les derniers mois de notre lune de miel.
En Asie, répéta Fandango qui songeait volontairement à son berceau.
N'ayant pu obtenir la permission du tsar, nous partîmes secrètement et nous apprîmes, sur les bords du Volga, que l'empereur de toutes les Russies m'avait condamné.
Condamné ? Répéta encore le docteur.
Il me trouvait belle, murmura Troïka en baissant les yeux, et il avait contre ma vertu des desseins coupables. Condamné à mort, disais-je, nous passâmes la frontière et parvîmes, après de longues traversées, jusqu'aux rives de l'Euphrate. Nous entrâmes en Arabie. C'était là que le plus affreux malheur m'attendait. Un soir, il y a de cela juste 28 ans et 9 mois, Fandango tressaillit si visiblement que la princesse s'interrompit pour lui demander «
Docteur, qu'avez-vous ? »
« Rien, » fit-il. « Poursuivez. » Je fus prise des douleurs de l'enfantement dans un lieu désert, peu éloigné des fameuses ruines de Palmyre. Pour la troisième fois, le docteur interrompit et répéta «
Les ruines de Palmyre ?»
Il devint plus pensif.
Pendant que je souffrais, continua la princesse, notre caravane fut attaquée par les habitants voleurs de ce pernicieux pays, qui hachèrent en pièces notre escorte et se portèrent sur mes femmes de chambre à d'atroces extrémités. Ils empalèrent mon malheureux époux après l'avoir scalpé comme un Mohican et ne s'arrêtèrent même pas devant cet état critique où je me trouvais et qui inspire de l'intérêt aux 5 parties du monde. Ce fut au milieu de ces tortures que je mis au jour un enfant du sexe masculin.
« Ah ! » fit Coriolan avec explosion. « C'était un fils ? »
« L'auriez-vous connu ?»
demanda la princesse dans le naïf élan de son amour maternel.
Coriolan répondit d'un accent étouffé.
« J'ai fait plus !»
Puis il ajouta, en proie à une indescriptible agitation,
« Madame, je croyais être le fruit de la génération spontanée, mais toutes ces circonstances sont tellement étranges. Mon berceau a été trouvé il y a 28 ans et 9 mois dans les ruines de Palmyre. Prouvez-le »
s'écria la princesse. Fandango prit dans sa poche un petit morceau de marbre et dit
« Voici un fragment de la colonne qui frappa mon premier regard.
« Je reconnais ce porphyre !»
dit Troïka en un cri du cœur. « Mais j'avais pendu à ton cou un bijou de corail aquatique, ma jeune épouse le porte sur son cœur !»
interrompit Coriolan à son tour. « Et qui pourrait dire ce qu'elle est devenue ?» La princesse prit un air froid. Elle doutait.
Mais tout à coup, elle sauta sur ses pieds et dit « Tu avais une marque de naissance. J'avais eu une envie d'écrevisse dans ces solitudes où l'absence d'eau les rend très rares. Tu portais...
Mon fils portait une écrevisse à peu près dessinée, non loin du cordon ombilical.
L'épreuve était facile. Elle fut faite. La princesse Troïka et le docteur Fandango tombèrent dans les bras l'un de l'autre en murmurant des paroles inarticulées parmi lesquelles on distinguait « Mon fils, ma mère !» Cette scène attendrissante se serait prolongée peut-être si elle n'avait été tranchée par un coup de foudre. La porte s'ouvrit brusquement. Mandina de Hachecor, couverte de transpiration, de poussière, de sang et de larmes, mais belle encore, malgré tant de malpropreté, s'élança dans l'appartement. Elle ne portait point de déguisement.
« Au secours »
râla-t-elle d'une voix étranglée. Puis se reprenant,
« Fils de la condamnée,
dit-elle,
me permettez-vous ? »
« Je te le permets,
répliqua Coriolan. Tu m'inquiètes, parle. » Mandina aussitôt se remit à crier.
« Au secours, au secours ! Ah, quel affreux carnage ! Tout est à feu et à sang dans la maison du repris de justice. Mustapha est blessé, le gendarme est massacré, le rémouleur, et Elvire, ma jeune épouse !»
prononça Fandango en un cri terrible. Les nerfs, déjà fort agacés de la princesse Troïka, n'y tinrent plus. Elle choisit ce moment pour s'évanouir.
« Ma tendre mère !»
fit Coriolan qui se précipita sur elle. En tout autre moment, Mandina de Hachecor eût donné une attention extrême à cet épisode si dramatique. Mais elle n'avait qu'une idée et reprit avec force.
« Chaque minute perdue avance le trépas de la bru de la condamnée. « Mais la voilà, la condamnée !»
s'écria Fandango, dont la détresse était inouïe.
« C'est ma mère tout fraîchement retrouvée. Je ne l'avais pas vue depuis 28 ans et 9 mois. Qu'elle est bien conservée. Ma mère, elle se meurt. Et là-bas, ma jeune épouse qui espère, à laquelle entendre, cette situation est trop tendue. Ma mère, ma femme, ma mère. Pitié, Seigneur !»
Il resta un instant comme abruti. Puis, sa vigoureuse nature reprenant le dessus, il prit Troïka dans ses bras et s'élança vers la porte en disant
« Guide-moi, Mandina de Hachecor, j'ai résolu le problème. Je n'abandonnerai ni ma femme ni ma mère. Je les sauverai toutes deux ou elles mourront ensemble. »
Fin du chapitre 11. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en avril 2011.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.